C'est à vous.
Merci Sébastien Duhamel. Prochain grand rendez-vous avec l'actualité africaine à 12h30, temps universel.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
En Côte d'Ivoire, l'opposition se met en ordre de bataille en vue de la présidentielle du mois d'octobre. Hier, 25 partis ont lancé la coalition pour une alternance pacifique avec pour objectif peser sur le processus électoral en vue d'un scrutin crédible, transparent et non violent. Ces partis exigent essentiellement un dialogue politique, un dialogue en vue de réformer la commission électorale qu'ils jugent trop dépendante du pouvoir, réviser les listes électorales ou encore que les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Alors seront-ils entendus ? Vos réactions évidemment nous intéressent. En tout cas, cette coalition regroupe des poids lourds de la scène politique. Le PDCI de Tidjane Thiam, le MGC de l'ex-première dame, Simone Veil, le FPI de Pascal Affine-Guessan ou encore le COGEP de Charles Blégoudé. À noter, et peut-être que vous aurez envie de réagir là-dessus, le PPACI de l'ex-président Laurent Gbagbo ne fait pas partie de cette alliance. Alors que vous inspire cette initiative ? Avez-vous l'impression que les conditions pour une élection apaisée sont réunies ou au contraire, pensez-vous donc comme l'opposition qu'il faut effectivement un nouveau dialogue politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour aller vers des élections sereines? 33 9 693 693 70 et vos commentaires sur nos réseaux sociaux. J'en lirai évidemment quelques-uns. Vous êtes nombreux ce matin. Merci de votre confiance et de vos encouragements. Bonjour Arsène.
Bonjour Juan.
Vous lancez le débat, vous êtes dans la capitale économique ivoirienne et visiblement vous n'êtes pas convaincu, vous, par les revendications de l'opposition.
Non, pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas convaincu par les revendications de l'opposition parce que pour moi, c'est une fuite en avant. L'opposition sait très bien, comme le dit souvent la CEI, que c'était acté qu'en 2025, il n'y aurait pas de révision de la liste électorale. D'autant plus que la révision de la liste électorale qui a été faite en 2024 a pris en compte tous les premiers votants qui devaient atteindre la majorité électorale en 2025.
Et pourtant, pourtant, l'opposition dit que cette liste ne reflète pas la réalité du corps électoral.
Non, comme je le dis, pour moi, c'est une fuite en avant. C'est plutôt un calcul politique qui vise à ce que trouver des arguments pour éventuellement arriver à une situation où l'élection ne se tienne pas à date en octobre 2025, pour prétexter un vide juridique, pour dire que le pouvoir qui est là n'est plus constitutionnel et proposer une transition politique comme ça a eu lieu en 2002 lorsque le président Gbagbo faisait face à une rébellion pour avoir un gouvernement d'union nationale.
Donc Arsène, voilà. Arsène, donc, si je suis votre raisonnement, votre logique, vous êtes en train de nous dire que l'opposition cherche d'ores et déjà des arguments pour contester les résultats ou pour essayer de repousser la date de la présidentielle.
Effectivement, parce qu'elle sait en son âme et conscience qu'elle sera battue à ces élections présidentielles d'octobre 2025. Maintenant,
mais alors, pourquoi en êtes-vous si sûr qu'elle sera battue, l'opposition ?
Je suis sûr parce que, au vu déjà du bilan du parti au pouvoir, au vu des résultats des dernières élections régionales qui ont eu lieu,
et municipales,
le parti au pouvoir n'a véritablement pas d'adversaire dans l'environnement politique ivoirien. Donc, et en plus, lorsqu'on regarde l'opposition même là est émiettée, est divisée. Il n'y a pas un leader véritablement qui peut véritablement porter la voix de l'opposition, qui peut répondre aux aspirations des Ivoiriens par rapport aux nouvelles attentes inculquées à la population ivoirienne par le parti au pouvoir. Oui. Donc l'opposition sait en elle-même qu'elle ne peut pas battre dans une élection franche le parti au pouvoir. Donc elle cherche des arguments, des arguties pour ne pas aller aux élections ou au cas où même les élections se feraient, contester les résultats des élections.
Bon, il y a Alain qui nous dit sur Facebook, pour le moment le plus important pour une élection apaisée, c'est d'obtenir une révision de la liste électorale et un dialogue politique pour vider tous les contentieux liés à l'organisation du scrutin. Voilà pour ce commentaire Facebook. Arsène, bonne journée à Abidjan. Bonne journée. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Dans quel état d'esprit êtes-vous quand, après la création de cette coalition de l'opposition ?
Je pense que c'est déjà un grand pas pour l'opposition, même si on aurait aimé que tout le monde soit représenté. Et surtout, il ne faut pas oublier la notion d'élection apaisée. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement organiser des élections, mais il faut voir les conditions qui ont été mises en place pour que les élections ne soient pas contestées, comme d'ailleurs mon prédécesseur l'a souligné. Il faut que celui qui soit désigné vainqueur soit effectivement inattaquable, que parce qu'au regard des conditions qui ont conduit à ces élections-là, ces conditions ont été certainement inclusive.
Oui, mais là, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, Jean-Paul, que les conditions pour une élection apaisée sont réunies ?
Non, pas du tout, pas du tout. Je crois que il y a des grands leaders tels que Soro Diom encore, peu importe ce qu'on lui reproche, mais qui est hors du pays, ses partisans, beaucoup qui ont fait de la prison.
Excusez-moi, vous dites peu importe ce qu'on lui reproche, il est quand même sous le coup de mandat d'arrêt, oui. D'un mandat okay, d'arrêt, bon. Pardon, et il a été condamné à deux reprises par la justice ivoirienne.
Oui. Je crois que on doit tirer des leçons sur tout ce qui nous est arrivé en 2010. Voilà, et même les élections passées, je crois qu'il y a un cas de dialogue à mettre en place pour vider certains sujets. L'ancien président Laurent Gbagbo également, qui n'est pas, comme on appelle, sur la liste électorale, mais qui demeure toujours populaire. Et il faut se dire, quelle Côte d'Ivoire nous voulons ? Est-ce que nous voulons construire un pays sans un groupe ? C'est vraiment impossible. Là, donc, il y a les quatre...
Jean-Paul, vous nous dites qu'il faut une élection avec Laurent Gbagbo et Guillaume Soro.
Je crois que, bien sûr, il faut composer avec tous ces acteurs-là. Et si la justice doit être un instrument pour exclure plusieurs, je crois que ce qui est arrivé en 2010 risque de se reproduire. Et c'est pourquoi il faut tout faire. Il y a des sujets qui fâchent, mais il faut être courageux pour s'asseoir autour de la table parce que les Ivoiriens veulent la paix, les Ivoiriens veulent des élections apaisées. Et là, nous encourageons toute la classe politique à trouver un effort, à trouver un consensus sur les sujets qui divisent pour que tout le monde puisse participer à ces élections.
Bon, je rappelle que le dernier dialogue remonte à 2022. Merci Jean-Paul, bonne journée à Bouna, dans le nord-est du pays. Oumar nous rejoint, bonjour.
Bonjour Juan.
Bienvenue Oumar. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous entendez les revendications de l'opposition? Vous êtes plutôt sceptique ou au contraire
Moi, je suis déjà sceptique parce que je pense que l'opposition n'aurait pas dû avoir une coalition d'opposition.
Ah bon?
Pourquoi je dis ça? C'est déjà montré déjà cette faiblesse. L'opposition aurait dû demander, vous voyez, un dialogue politique.
Ben c'est ce qu'elle fait. Excusez-moi,
Omar. La révision, c'est ce qu'elle fait depuis deux mois. Mais après, la révision, la liste électorale a été déjà révisée. Vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, le PDCI, qui est un grand parti politique, n'aurait pas dû se mélanger avec les autres. Pourquoi je dis ça? Nous rappelons encore de 2010, qui n'était pas loin. Les élections régionales, municipales et législatives ont prouvé sur le terrain qui est qui dans ce pays. Vous comprenez ?
J'essaie de vous suivre.
Voilà, vous essayez de me suivre. Donc c'est pour dire quoi ? Pour qu'il y ait une coalition déjà, il faudrait que tous les partis politiques, vous comprenez ?
Tous les partis
déjà,
quoi ?
Et à plutôt tous les partis politiques de l'opposition est déjà un plan pour la présidentielle de 2025. Certains partis politiques n'ont pas de plan, je vous assure. Leur plan, c'est de contester.
Ouais.
C'est de demander la révision de la liste électorale. Or, il y a une période pour réviser la liste électorale. Cette période, je pense qu'elle est déjà passée. Vous comprenez?
Donc c'est trop tard. Ce que je comprends... Oumar, ce que je comprends en vous écoutant, c'est qu'il est trop tard aujourd'hui pour réviser la liste électorale. C'est ce que je retiendrai en tout cas de vos argumentations. Un petit détour sur les réseaux sociaux, parce que certains nous disent bien pour remporter, il faudrait peut-être, pour qu'il y ait alternance, il faudrait peut-être une candidature unique de l'opposition. Olivier nous dit, lui, il n'y aura pas de candidat unique. Chaque parti a l'ambition de remporter l'élection, mais en cas de second tour, les autres se rangeront derrière celui celui qui sera qualifié. Vakis estime que c'est l'union de toute l'opposition, sans exception, qui pourra provoquer l'alternance en Côte d'Ivoire. Chacun doit mettre ses intérêts personnels et politiques de côté et jouer franc jeu. Bonjour Nabi.
Oui, bonjour RFI.
Vous êtes surpris que l'opposition fasse une fixation sur la liste électorale?
Oui, bien évidemment, Rouen. Je le dis, il n'y aura pas. Je pense fort qu'il y ait une alternance en 2025 en Côte d'Ivoire. Plutôt que de se focaliser sur le programme de gouvernement, je l'ai dit, l'opposition est focalisée, fait une fixation sur la révision de la liste électorale. Alors que la commission électorale de la liste, la CEI, la commission électorale indépendante, toute l'opposition, en tout cas dans sa majorité, est représentée au sein de cette commission. Pas plus tard que 2023, la commission électorale a annoncé avoir eu un atelier avec tous les partis politiques.
Oui. D'accord, mais enfin l'opposition dit que cette commission électorale est impartiale.
Mais comment est-ce que cette commission est impartiale? Ce que je vous fais comprendre, l'opposition ivoirienne a intérêt à mieux se préparer au fait. L'opposition ivoirienne a intérêt à mieux se préparer. Le RHDP, c'est un grand parti. C'est un parti assez structuré. En allant coup-ci, coup-ça de cette manière, je ne pense pas qu'il ait alternance en 2025. La CEI, selon l'opposition, est beaucoup plus favorable au RHDP, mais lorsqu'il y a les élections, comme la députation à Yopougon, l'opposition a remporté la députation à Yopougon, à faire qu'un cadre du GPS a remporté l'élection municipale, ainsi de suite.
Oui, donc vous dites que l'opposition a des chances de remporter un scrutin, puisque vous avez cité Yopougon, par exemple. Ce qui s'est produit à Yopougon peut se produire à l'échelle nationale?
Non, Roi.
J'essaie de vous comprendre. Nabi, j'essaie de vous comprendre.
Vous faites une confusion totale.
Purement et simplement. Mais parce que j'ai du mal à vous suivre, Nabi.
Oui,
excusez-moi.
Purement et simplement. J'ai dit, parlant de la CEI, lorsqu'il s'agit d'élections locales, et que le candidat de l'opposition, d'un parti d'opposition, remporte les élections, on a double la CEI.
D'accord.
Ce que ça veut dire purement et simplement.
D'accord. Donc, quand l'opposition gagne, l'opposition ne critique pas la commission électorale. Mais là, comme elle sent qu'elle peut perdre la présidentielle, elle est d'ores et déjà dans un bras de fer avec la commission. C'est bien ça?
C'est aussi simple que ça.
J'ai fini par comprendre. Nabi, le temps passe très vite. Il y a beaucoup de monde au standard. Merci infiniment. Bonne journée à Abidjan. Moussa, bonjour. Allô Moussa? Ah, on n'a pas de Moussa. Aubin, bonjour.
Oui, bonjour Juan Gomez.
Alors, cette coalition est-elle la bienvenue?
Oui, pour moi, elle est la bienvenue et elle est bien, bien pensée parce que c'est à la demande de tous les Ivoiriens, en fait. Les Ivoiriens savent que le RHDP est un parti qui vraiment se dit majoritaire. Donc, pour pouvoir le vaincre, il faut que toutes nos positions se mettent ensemble. Mais malheureusement, il y a certains qui sont encore sceptiques pour des raisons certainement qui sont un peu personnelles. Parlant un peu du président Laurent Gbagbo qui n'a pas encore son nom sur la liste, ses partisans sont en train de lutter pour qu'il ait son nom sur la liste. Donc c'est un nom peut-être qu'ils vont rejoindre l'opposition après. Mais je dis que cette coalition est la bienvenue et elle va certainement apporter une réponse à l'adversaire, le RHDP en face.
Oui, mais ça veut dire quoi qu'attendez-vous concrètement de cette opposition, enfin de cette coalition? Il y a du bruit, Aubin, vous êtes dans les embouteillages d'Abidjan?
Oui, exactement. Voilà. Je suis encore dans les embouteillages, désolé pour le bruit.
Mais non, c'est pas grave. On sait ce que c'est à cette heure-ci dans les principales artères de la capitale économique ivoirienne. C'est très, très souvent bouché. Aubin, mais qu'attendez-vous de cette coalition concrètement? Qu'elle obtienne la révision, je ne sais pas, de la liste électorale ou qu'elle finisse par s'entendre sur un candidat unique?
Juan Gomez, moi je pense que les choses vont se faire au fur et à mesure. Et actuellement, nous sommes dans une revendication de la RLE, nous sommes dans une revendication de la réforme de la CEI, parce qu'on sent que la CEI n'est pas elle n'est pas neutre en fait.
D'accord. Voilà. Vous avez cette impression qu'elle est impartiale.
Elle est impartiale, effectivement.
Bon, Aubin,
elle doit prendre en compte. Oui.
Allez-y, concluez. Elle doit prendre en compte.
Elle doit prendre en compte les décisions ou bien les propositions de l'opposition. Mais malheureusement, on constate qu'elle refuse catégoriquement de les prendre en compte.
Bon,
et quand
en tout cas,
comme ça, ça ne rend pas intéressant le débat politique.
Bon, en tout cas, il y a eu un dialogue politique en Côte d'Ivoire, je le disais tout à l'heure, il remonte à 2022. Il y avait 21 partis politiques, 26 organisations de la société civile, et visiblement, il y a eu quand même un certain nombre de recommandations posées sur la table, et notamment celle de réaménager la commission électorale. Ça n'a toujours pas été fait selon l'opposition. On verra quel sera le poids justement de la coalition créée hier, Coalition pour une alternance pacifique. Bonjour Nouo.
Bonjour Ouran Gomez.
Bonjour Nouo, vous êtes à Abidjan également, dans un lieu bien plus calme qu'Aubin précédemment. Comment vous analysez la création de cette coalition de l'opposition ?
Merci, M. Ouran Gomez. J'aimerais dire comme ça à la face du monde que cette coalition est mort-née.
Ah. Pourquoi?
Oui, puisque je dis, je tiens mes propos parce que cette coalition est dirigée par M. Tidiane Thiam. Pour le moment, à l'heure actuelle où je vous parle, n'est pas encore éligible pour candidater à la présidentielle. Maintenant, en secondo, la porte-parole, Mme Simone Evie Gbagbo, est sous le coup d'une condamnation. Charles Blé Goudé est sur le coup d'une condamnation. Afingessa est sur le coup d'une condamnation. Toute la direction de cette coalition est sous le coup d'une condamnation. Maintenant, revenons à Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, bon, on a vu le cas de M. Jean-Luc Bion qui a pris 10 mois pour que le premier ministre français a signé son arrêté pour dire qu'il est exclusivement actuellement ivoirien. Mais est-ce que combien de temps le cas Tidiane Thiam va prendre? Point d'interrogation.
Oui, c'est vrai, point d'interrogation. Parce que il a déposé sa demande de libération de la nationalité française, comme l'exige la loi ivoirienne. Oui. Voilà, effectivement, reste à savoir combien de temps cela prendra pour qu'il n'ait plus la nationalité française, alors qu'il doit déposer la candidature au plus tard, je crois, 60 jours avant l'élection présidentielle.
Merci mon frère. Dans le mois d'août, on doit faire les premiers dépôts de candidature. Maintenant, revenons aux revendications de cette organisation. Tout ce qu'ils sont en train de revendiquer, la CEU passe chaque fois sur les plateaux des télévisions ivoiriennes pour nous dire la vérité. C'est la CEU qui nous dit la vérité. Oui. Et tous, ils ont signé au même titre que la CEU pour dire qu'il n'y aura pas de révision des listes électorales avant les élections. La CEI est une organe sérieux qui ne peut pas envoyer les Ivoiriens à l'abattoir.
Oui, bien sûr. J'entends. En même temps, vous dites que la CEI nous dit la vérité sur les plateaux de télévision. Ce n'est pas le ressenti de tous ceux qui seraient tentés plutôt de voter pour l'opposition. Et il n'y a qu'à entendre le discours hier de Simone Eivé, qui est donc l'ancienne première dame et qui est la porte-parole de cette coalition. Son discours est très clair. Et elle-même, pour résumer sa pensée, a dit « il urge de s'asseoir à la table du dialogue ». Je vous lis quelques commentaires. Gaoussa nous dit « Ce n'est pas une question de stratégie, mais plutôt une question de bilan. Les Ivoiriens ne sont pas dupes ». Gaston nous dit « Malheureusement, en Côte d'Ivoire, les politiciens sont des vendeurs d'illusions. En 2020, les opposants s'étaient organisés pour combattre Alassane Ouattara, mais certains ont ensuite rejoint le camp présidentiel. Aujourd'hui, avec les réalisations du président, je ne vois aucun opposant qui peut battre ce régime. Le débat, en tout cas, est loin d'être clos. On aura évidemment l'occasion de le prolonger très très vite. On attend évidemment, mais ça c'est un autre débat, le choix, la décision du président Alassane Ouattara. Va-t-il se représenter? Là aussi, c'est une question qui alimente les discussions politiques, les débats chez nos confrères sur place à Abidjan, sur les plateaux de radio et de la télévision. Merci à tous. Demain, on parlera de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, ces trois pays, vous le savez, ont claquer la porte de la CDAO. Et pour tenter de les convaincre de réintégrer l'organisation ouest-africaine, eh bien le président ghanéen s'est rendu ces jours-ci à Bamako, à Niamey, à Ouagadougou. Et surprise hier, surprise, au terme de cette tournée, le chef de l'État ghanéen, le président Mahama, a jeté un pavé dans la mare en affirmant que c'est à la CDAO de faire un pas vers l'AES. Autrement dit, c'est à la CDAO de reconnaître l'Alliance des États du Sahel. Que vous inspire cette requête? Le débat s'annonce passionnant, je n'en doute pas. Vous êtes déjà nombreux, je suis sûr, à souhaiter vous inscrire. Faites-le, toute l'équipe vous attend au standard et sur les réseaux sociaux. Passez tous une très belle journée à l'écoute de RFI, prenez soin de vous. Et à demain, 8h10, TU.
Crédit Express de Banque Atlantique vous a proposé appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Juan.
De retour du Sénégal, priorité santé, c'est dans 10 minutes. Vous nous parlez tout à l'heure des traumatismes crâniens.
Oui, les conséquences de ces chocs à la tête. D'abord reconnaître les symptômes, des maux de tête plus ou moins intenses, vomissements, perte de connaissance qui vont déterminer le degré de sévérité des lésions. On va parler du diagnostic des prises en charge pour éviter bien sûr les séquelles. On parlera aussi de la prévention du trauma crânien dans la vie de tous les jours, comme dans certaines activités plus à risque. On pense bien sûr à la moto.
Et c'est juste